David Copperfield, chapitre 11, les tentes de Dora. À la fin, je reçus une réponse des deux vieilles dames. Elles présentaient leurs compliments à Monsieur Copperfield et l'informaient qu'elles avaient lu sa lettre avec la plus sérieuse attention dans l'intérêt des deux parties. Cette expression me parut assez alarmante, non seulement parce qu'elles s'en étaient déjà servies autrefois dans leurs discussions avec leurs frères, mais aussi parce que j'avais remarqué que les phrases de convention sont comme ces bouquets de feux d'artifice dont on ne peut prévoir au départ la variété de formes et de couleurs qui les diversifient sans le moindre égard pour leur forme originelle. Ces demoiselles ajoutaient qu'elles ne croyaient pas convenable d'exprimer par lettre leur opinion sur le sujet dont les avait entretenus M. Copperfield, mais que si M. Copperfield voulait leur faire l'honneur d'une visite à un jour désigné, elles seraient heureuses d'en converser avec lui. M. Copperfield pouvait, s'il le jugeait à propos, se faire accompagner d'une personne de confiance. M. Copperfield répondit immédiatement à cette lettre qu'il présentait à Mlle Spenlow ses compliments respectueux, qu'il aurait l'honneur de leur rendre visite au jour désigné et qu'il serait accompagné, comme elles avaient bien voulu le lui permettre, de son ami M. Thomas Traddles du Temple. Une fois cette lettre expédiée, M. Copperfield tomba dans un état d'agitation nerveuse qui dura jusqu'à ce jour fixé. Ce qui augmentait beaucoup mon inquiétude, c'était de ne pouvoir, dans une crise aussi importante, avoir recours aux inestimables services de Miss Mills. Mais M. Mills, qui semblait prendre à tâche de me contrarier, du moins je le croyais, ce qui revenait au même, M. Mills, dis-je, venait de prendre un parti extrême en se mettant dans la tête de partir pour les Indes. Je vous demande un peu ce qu'il voulait aller faire aux Indes, si ce n'était pour me vexer. Vous me direz à cela qu'il n'avait rien à faire dans aucune autre partie du monde et que celle-là l'intéressait particulièrement, puisque tout son commerce se faisait avec l'Inde. Je ne sais trop quel pouvait être ce commerce. J'avais sur ce sujet des notions assez vagues de châle lamé d'or et de dents d'éléphant. Il avait été à Calcutta dans sa jeunesse et il voulait retourner s'y établir en qualité d'associé résident. Mais tout cela m'était bien égal. Il n'en était pas moins vrai qu'il allait partir et qu'il emmenait Julia, et que Julia était en voyage pour dire adieu à sa famille. Leur maison était affichée à vendre ou à louer. Leur mobilier, la machine à lessive, comme le reste, devait se vendre sur estimation. Voilà donc encore un tremblement de terre sous mes pieds, avant que je fusse encore bien remis du premier. J'hésitais fort sur la question de savoir comment je devais m'habiller pour le jour solennel. J'étais partagée entre le désir de paraître à mon avantage et la crainte que quelque apprêt dans ma toilette ne vînt altérer ma réputation d'homme sérieux aux yeux des demoiselles Spenlow. J'essayai un heureux mezzo termine dont ma tante approuva l'idée, et pour assurer le succès de notre entreprise, M. Dick, selon les usages matrimoniaux du pays, jeta son soulier en l'air derrière Traddles et moi comme nous descendions l'escalier. Malgré toute mon estime pour les bonnes qualités de Traddles et malgré toute l'affection que je lui portais, je ne pouvais m'empêcher, dans une occasion aussi délicate, de souhaiter qu'il n'eût pas pris l'habitude de se coiffer en brosse, comme il faisait toujours. Ses cheveux dressés en l'air sur sa tête lui donnaient un air effaré, je pourrais même dire une mine de balai de crin, dont mes appréhensions superstitieuses ne me faisaient augurer rien de bon. Je pris la liberté de le lui dire en chemin et de lui insinuer que s'il pouvait seulement les aplatir un peu. « Mon cher Copperfield, » dit Traddles en ôtant son chapeau et en lissant ses cheveux dans tous les sens, « rien ne saurait m'être plus agréable, mais ils ne veulent pas. »« Ils ne veulent pas se tenir lisses ?»« Non, » dit Traddles, « rien ne peut les y décider. » J'aurais beau porter sur ma tête un poids de 50 livres d'ici à Putney, que mes cheveux se redresseraient aussitôt de rechef, dès que le poids aurait disparu. Vous ne pouvez pas vous faire une idée de leur entêtement, Copperfield. je suis comme un porc-épic en colère. J'avoue que je fus un peu désappointée, tout en lui sachant gré de sa bonhomie. Je lui dis que j'adorais son bon caractère et que certainement il fallait que tout l'entêtement qu'on peut avoir dans sa personne eût passé dans ses cheveux, car pour lui, il ne lui en restait pas trace. « Oh !» reprit Traddles en riant, « ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai à me plaindre de ces malheureux cheveux. La femme de mon oncle ne pouvait pas les souffrir. Elle disait que ça l'exaspérait. Et cela m'a beaucoup nui aussi dans les commencements, quand je suis devenu amoureux de Sophie. Oh, mais beaucoup !»« Vos cheveux lui déplaisaient ?»« Oh, pas à elle !» reprit Traddles. Mais sa sœur aînée, la beauté de la famille, ne pouvait se lasser d'en rire à ce qu'il paraît. Le fait est que toutes ses sœurs en font des gorges chaudes. « Oh, c'est agréable !»« Ah oui !» reprit Traddles avec une innocence adorable. « Cela nous amuse tous. Elles prétendent que Sophie a une mèche de mes cheveux dans son pupitre et que pour les tenir aplatis, elle est obligée de les enfermer dans un livre à fermoir. Nous en rions bien, allez. À propos, mon cher Traddles, votre expérience pourra m'être utile. Quand vous avez été fiancé à la jeune personne dont vous venez de me parler, avez-vous eu affaire à la famille une proposition en forme? Par exemple, avez-vous eu à accomplir la cérémonie par laquelle nous allons passer aujourd'hui? Ajoutai-je d'une voix émue. Voyez-vous, Copperfield, dit Traddles, et son visage devint plus sérieux. « C'est une affaire qui m'a donné bien du tourment. Vous comprenez, Sophie est si utile dans sa famille qu'on ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle pût jamais se marier. Ils avaient même décidé entre eux qu'elle ne se marierait jamais, et on l'appelait d'avance la vieille fille. Aussi, quand j'en ai dit un mot à Mistress Crower, avec toutes les précautions imaginables... « C'est la mère ?» Oui, son père est le révérend Horace Criller. Quand j'ai dit un mot à Mistress Criller en dépit de toutes mes précautions oratoires, elle a poussé un grand cri et s'est évanouie. Il m'a fallu attendre des mois entiers avant de pouvoir aborder le même sujet. Mais à la fin, pourtant, vous y êtes revenu. C'est le révérend Horace, dit Traddles, l'excellent homme et exemplaire dans tous ses rapports. Il lui a représenté que, comme chrétienne, elle devait se soumettre à ce sacrifice, d'autant plus que ce n'en était peut-être pas un, et se garder de tout sentiment contraire à la charité à mon égard. Quant à moi, Copperfield, je vous en donne ma parole d'honneur, je me faisais horreur. Je me regardais comme un vautour qui venait de fondre sur cette estimable famille. Les sœurs ont pris votre parti, Traddles, j'espère. Ah, mais je ne peux pas dire ça. Quand Mistress Criller fut un peu réconciliée avec cette idée, nous eûmes à l'annoncer à Sarah. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit de Sarah? C'est celle qui a quelque chose dans l'épine dorsale. Oh, parfaitement. Elle s'est mise à croiser les mains avec angoisse en me regardant d'un air désolé. Puis elle a fermé les yeux, elle est devenue toute verte. Son corps était roide comme un bâton. Et pendant 2 jours, elle n'a pu prendre que de l'eau panée par cuillerée à café. C'est donc une fille insupportable, Traddles. Je vous demande pardon, Copperfield. C'est une personne charmante, mais elle a tant de sensibilité. Le fait est qu'elles sont toutes comme ça. Sophie m'a dit ensuite que rien ne pourrait jamais me donner une idée des reproches qu'elle s'était adressée à elle-même tandis qu'elle soignait Sarah. Je suis sûre qu'elle en a dû bien souffrir, Copperfield. J'en juge par moi, car j'étais là comme un vrai criminel. Quand Sarah a été guérie, il a fallu l'annoncer aux 8 autres, et sur chacune d'elles, l'effet a été des plus attendrissants. Les 2 petites que Sophie élève commencent seulement maintenant à ne pas me détester. Mais enfin, ils sont tous maintenant réconciliés avec cette idée, j'espère. Oui, oui, à tout prendre, je crois qu'ils se sont résignés. Dit Traddles d'un ton de doute. À vrai dire, nous évitons d'en parler. Ce qui les console beaucoup, c'est l'incertitude de mon avenir et la médiocrité de ma situation. Mais si jamais nous nous marions, il y aura une scène déplorable. Cela ressemblera bien plus à un enterrement qu'à une noce, et ils m'en voudront tous à mort de là leur ravir. » Son visage avait une expression de candeur à la fois sérieuse et comique, dont le souvenir me frappe peut-être plus encore à présent que sur le moment, car j'étais alors dans un tel état d'anxiété et de tremblement pour moi-même que j'étais tout à fait incapable de fixer mon attention sur quoi que ce fût. À mesure que nous approchions de la maison des demoiselles Spenlow, je me sentais si peu rassurée sur mes dehors personnels et sur ma présence d'esprit que Traddles me proposa, pour me remettre, de boire quelque chose de légèrement excitant, comme un verre d'ale. Il me conduisit à un café voisin, puis au sortir de là, je me dirigeais d'un pas tremblant vers la porte de ces demoiselles. J'eus comme une vague sensation que nous étions arrivés quand je vis une servante nous ouvrir la porte. Il me sembla que j'entrais en chancelant dans un vestibule où il y avait un baromètre et qui donnait sur un tout petit salon rez-de-chaussée. Le salon ouvrait sur un joli petit jardin. Puis je crois que je m'assis sur un canapé, que Traddles ôta son chapeau et que ses cheveux, en se redressant, lui donnèrent l'air d'une de ces petites figures d'épouvantail à ressort qui sortent d'une boîte quand on lève le couvercle. Je crois avoir entendu une vieille pendule rococo qui ornait la cheminée faire tic-tac et que j'essayais de mettre celui de mon cœur à l'unisson. Mais il battait trop fort. Je crois que je cherchais des yeux quelque chose qui me rappela Dora et que je ne vis rien. Je crois aussi que j'entendis Jip aboyer dans le lointain et que quelqu'un étouffa aussitôt ses cris. Enfin, je manquais de pousser du coup Traddles dans la cheminée en faisant la révérence avec une extrême confusion à deux vieilles petites dames habillées en noir qui ressemblaient à deux diminutifs ratatinés de feu Monsieur Spenlow. « Asseyez-vous, je vous prie, » dit l'une des deux petites dames. Quand j'eus cessé de faire tomber Traddles et que j'eus trouvé un autre siège qu'un char sur lequel je m'étais premièrement installée, je recouvrais suffisamment mes sens pour m'apercevoir que M. Spenlow devait évidemment être le plus jeune de la famille. Il devait y avoir 6 ou 8 ans de différence entre les deux sœurs. La plus jeune paraissait chargée de diriger la conférence, d'autant qu'elle tenait ma lettre à la main. Ma pauvre lettre, je la reconnaissais bien, et pourtant je tremblais de la reconnaître, et qu'elle la consultait de temps en temps avec son lorgnon. Les deux sœurs étaient habillées de même, mais la plus jeune avait pourtant dans sa personne je ne sais quoi d'un peu plus juvénile, et aussi dans sa toilette quelques dentelles de plus à son col ou à sa chemisette, peut-être une broche ou un bracelet, ou quelque chose comme cela, qui lui donnait un air plus lutin. Toutes deux étaient roides, calmes et compassées. La sœur qui ne tenait pas ma lettre avait les bras croisés sur sa poitrine comme une idole. « Monsieur Copperfield, je pense, » dit la sœur qui tenait ma lettre en s'adressant à Traddles. Quel effroyable début ! Traddles, obligé d'expliquer que c'était moi qui étais Monsieur Copperfield, et moi réduit à réclamer ma personnalité. Et elle forçait à leur tour de se défaire d'une opinion préconçue que Traddles était M. Copperfield. Jugez comme c'était agréable. Et par-dessus le marché, nous entendions très distinctement deux petits aboiements de Jip, puis sa voix fut encore étouffée. « Monsieur Copperfield, » dit la sœur qui tenait la lettre. Je fis je ne sais quoi, je saluais probablement, puis je prêtai l'oreille la plus attentive à ce que me dit l'autre sœur. Ma sœur Savinia, étant plus versée que moi dans de pareilles matières, va vous dire ce que nous croyons qu'il y ait de mieux à faire dans l'intérêt des deux parties. Je découvris plus tard que Miss Savinia faisait autorité pour les affaires de cœur, parce qu'il avait existé jadis un certain monsieur Pidger qui jouait au whist et qui avait été, à ce qu'on croyait, amoureux d'elle. Mon opinion personnelle, c'est que la supposition était entièrement gratuite, et que Pidger était parfaitement innocent d'un tel sentiment. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'ai jamais entendu dire qu'il en eût donné la moindre atteinte. Mais enfin, Miss Savinia et Miss Clarissa croyait, comme un article de foi, qu'il aurait déclaré sa passion s'il n'avait été emporté, à la fleur de l'âge, il avait environ 60 ans, par l'abus des liqueurs fortes, corrigé ensuite mal à propos par l'abus des eaux de Bath comme antidote. Elles avaient même un secret soupçon qu'il était mort d'un amour rentré, celui qu'il portait à Savinia. Je dois dire que le portrait qu'elles avaient conservé de lui présentait un nez cramoisi qui ne paraissait pas avoir autrement souffert de cet amour dissimulé. « Nous ne voulons pas, » dit Miss Savinia, « remonter dans le passé jusqu'à l'origine de la chose. La mort de notre pauvre frère Francis a effacé tout cela. » « Nous n'avions pas, » dit Miss Clarissa, « de fréquents rapports avec notre frère Francis, mais il n'y avait point de division ni de désunion positive entre nous. Francis est resté de son côté, nous d'une autre. Nous avons trouvé que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire dans l'intérêt des deux parties. Et c'était vrai. » Les deux sœurs se penchaient également en avant pour parler, puis elles secouaient la tête et se redressaient quand elles avaient fini. Miss Clarissa ne remuait jamais les bras. Elle jouait quelquefois du piano dessus avec ses doigts, des menuets et des marches, je suppose, mais ses bras n'en restaient pas moins immobiles. La position de notre nièce, du moins sa position supposée, est bien changée depuis la mort de notre frère Francis. Nous devons donc croire, dit Miss Savinia, que la vie de notre frère sur la position de sa fille n'a plus la même importance. Nous n'avons pas de raison de douter, monsieur Copperfield, que vous ne possédiez une excellente réputation et un caractère honorable, ni que vous ayez de l'attachement pour notre nièce, ou du moins que vous ne croyez fermement avoir de l'attachement pour elle. » Je répondis, comme je n'avais garde en aucun cas d'en laisser échapper l'occasion, que jamais personne n'avait aimé quelqu'un comme j'aimais Dora. Traddles me prêta main forte par un murmure confirmatif. Miss Savinia allait faire quelques remarques quand Miss Clarissa, qui semblait poursuivie sans cesse du besoin de faire allusion à son frère Francis, reprit la parole. « Si la mère de Dora, dit-elle, nous avait dit le jour où elle épousa notre frère Francis qu'il n'y avait pas de place pour nous à sa table, cela aurait mieux valu dans l'intérêt des deux parties. « Ma sœur Clarissa, dit Miss Savinia, peut-être vaudrait-il mieux laisser cela de côté. « Ma sœur Savinia, dit Miss Clarissa, cela a rapport au sujet. Je ne me permettrai pas de me mêler de la branche du sujet qui vous regarde. Vous seule êtes compétente pour en parler. Mais quant à cette autre branche du sujet, je me réserve ma voix et mon opinion. Il aurait mieux valu, dans l'intérêt des deux parties, que la mère de Dora nous exprimât clairement ses intentions le jour où elle a épousé notre frère Francis. Nous aurions su à quoi nous en tenir. Nous lui aurions dit « Ne prenez pas la peine de nous inviter jamais » et tout malentendu aurait été évité. Quand Miss Clarissa eut fini de secouer la tête, Miss Savinia reprit la parole tout en consultant ma lettre à travers son lorgnon. Les deux sœurs avaient de petits yeux ronds et brillants qui ressemblaient à des yeux d'oiseaux. En général, elles avaient beaucoup de rapports avec des petits oiseaux et il y avait dans leur ton bref, prompt et brusque, comme aussi dans le soin propret avec lequel elles rajustaient leur toilette, quelque chose qui rappelait la nature et les mœurs des canaris. Miss Savinia reprit donc la parole. « Vous nous demandez, monsieur Copperfield, à ma sœur Clarissa et à moi, l'autorisation de venir nous visiter, comme fiancée de notre nièce. S'il a convenu à notre frère Francis, dit Miss Clarissa qui éclata de nouveau, si tant est qu'on puisse dire éclater, en parlant d'une interruption faite d'un air si calme. S'il lui a plu de s'entourer de l'atmosphère des Doctors' Commons, avions-nous le droit ou le désir de nous y opposer? Non, certainement. Nous n'avons jamais cherché à nous imposer à personne. Mais pourquoi ne pas le dire? Mon frère Francis et sa femme étaient bien maîtres de choisir leur société, comme ma sœur Clarissa et moi de choisir la nôtre. Nous sommes assez grandes pour ne pas nous en laisser manquer, je suppose. Comme cette apostrophe semblait s'adresser à Traddles et à moi, nous nous crûmes obligés d'y faire quelques réponses. Traddles parla trop bas, on ne put l'entendre. Moi, je dis à ce que je crois, que cela faisait le plus grand honneur à tout le monde. Je ne sais pas du tout ce que je voulais dire par là. « Ma sœur Savinien, » dit Miss Clarissa, maintenant qu'elle venait de se soulager le cœur, « continuez. » Miss Savinien continua. « Monsieur Copperfield, ma sœur Clarissa et moi, nous avons mûrement réfléchi au sujet de votre lettre. Et avant d'y réfléchir, nous avons commencé par la montrer à notre nièce et par la discuter avec elle. Nous ne doutons pas que vous ne croyez l'aimer beaucoup. Si je crois l'aimer, madame, oh ! J'allais entrer en extase, mais Miss Clarissa me lança un regard, exactement celui du petit serin, comme pour me prier de ne pas interrompre l'oracle, que je me tue en demandant pardon. L'affection, dit Miss Savinia en regardant sa sœur, comme pour lui demander de l'appuyer de son assentiment. Et Miss Clarissa n'y manquait pas à la fin de chaque phrase par un petit hochement de tête ad hoc. L'affection solide, le respect, le dévouement ont de la peine à s'exprimer. Leur voix est faible, modeste et réservée. L'amour se cache, il attend toujours. C'est comme un fruit qui attend sa maturité. Souvent la vie se passe et il reste encore à mûrir à l'ombre. Naturellement, je ne compris pas alors que c'était une allusion aux souffrances présumées du malheureux Pitger. Je vis seulement à la gravité avec laquelle Miss Clarissa remuait la tête qu'il y avait un grand sens dans ses paroles. Les inclinations légères, car je ne saurais les comparer avec les sentiments solides dont je parle, continua Miss Savinia. Les inclinations légères des petits jeunes gens ne sont auprès de cela que ce que la poussière est au roc. Il est si difficile de savoir si elles ont un fondement solide que ma sœur Clarissa et moi, nous ne savions que faire en vérité, monsieur Copperfield, et vous, monsieur Traddles, dit mon ami en voyant qu'on le regardait. Je vous demande pardon, monsieur Traddles, du temple, je crois, dit Miss Clarissa en lorgnant encore la lettre. Précisément, dit Traddles, et il devint rouge comme un coq. Je n'avais encore reçu aucun encouragement positif, mais il me semblait remarquer que les deux petites sœurs, et surtout Miss Savinia, se complaisaient dans cette nouvelle question d'intérêt domestique, qu'elles cherchaient à en tirer tout le parti possible, à la faire durer le plus possible, et cela me donnait bon espoir. Je croyais voir que Miss Savinia serait ravie d'avoir à gouverner deux jeunes amants, comme Dora et moi, et que Miss Clarissa serait presque aussi contente de l'avoir nous gouverner, en se donnant de temps à autre le plaisir de disserter sur la branche de la question qu'elle s'était réservée pour sa part. Cela me donna le courage de déclarer avec la plus grande chaleur que j'aimais Dora plus que je ne pouvais le dire ou qu'on ne pouvait le croire, que tous mes amis savaient combien je l'aimais, que ma tante, Agnès, Traddles, tous ceux qui me connaissaient, savaient combien mon amour pour elle m'avait rendu sérieux. J'appelais Traddles en témoignage. Traddles prit feu comme s'il se plongeait à corps perdu dans un débat parlementaire et vint noblement à mon aide. Évidemment, ces paroles simples, sensées et pratiques produisirent une impression favorable. J'ai, s'il m'est permis de le dire, une certaine expérience en cette matière, dit Traddles. Je suis fiancée à une jeune personne qui est l'aînée de 10 enfants en Devonshire et même pour le moment, je ne vois aucune probabilité que nous puissions nous marier. Vous pourrez donc confirmer ce que j'ai dit, monsieur Traddles, repartit Miss Savinia, à laquelle il inspirait évidemment un intérêt tout nouveau sur l'affection modeste et réservée qui sait attendre et toujours attendre. Entièrement, madame, dit Traddles. Miss Clarissa regarda Miss Savinia en lui faisant un signe de tête plein de gravité. Miss Savinia regarda Miss Clarissa d'un air sentimental et poussa un léger soupir. « Ma sœur Savinia, » dit Miss Clarissa, « prenez mon flacon. » Miss Savinia se réconforta au moyen des selles de sa sœur, puis elle continua d'une voix plus faible, tandis que Traddles et moi nous la regardions avec sollicitude. « Nous avons eu de grands doutes, ma sœur et moi, Monsieur Traddles, sur la marche qu'il convenait de suivre quant à l'attachement, ou du moins quant à l'attachement supposé, de deux petits jeunes gens comme votre ami Monsieur Copperfield et notre nièce. « L'enfant de notre frère Francis, » fit remarquer Miss Clarissa. « Si la femme de notre frère Francis avait de son vivant jugé convenable, bien qu'elle eût certainement le droit d'agir différemment, d'inviter la famille à dîner chez elle, nous connaîtrions mieux aujourd'hui l'enfant de notre frère Francis. Ma sœur Savinia, continuez. » Miss Savinia retourna ma lettre pour en remettre l'adresse sous ses yeux, puis elle parcourut avec son lorgnon quelques notes bien alignées qu'il y avait inscrites. « Il nous semble prudent, Monsieur Traddles, » dit-elle, « de juger par nous-mêmes de la profondeur de tels sentiments. Pour le moment, nous n'en savons rien, et nous ne pouvons savoir ce qu'il en est réellement. Tout ce que nous croyons donc pouvoir faire, c'est d'autoriser Monsieur Copperfield à nous venir voir. « Je n'oublierai jamais votre bonté, mademoiselle, » m'écriai-je, le cœur soulagé d'un grand poids. « Mais pour le moment, » reprit Miss Savinia, « nous désirons, Monsieur Traddles, que ces visites s'adressent à nous. Nous ne voulons sanctionner aucun engagement positif envers Monsieur Copperfield et notre nièce avant que vous ayez eu l'occasion, ma sœur Savinia, » dit Miss Clarissa. « Je le veux bien, » répondit Miss Savinia avec un soupir, « avant que j'aie eu l'occasion d'en juger. « Copperfield, » dit Traddles en se tournant vers moi, « vous sentez, j'en suis sûre, qu'on ne saurait rien dire de plus raisonnable ni de plus sensé. « Non, certainement, » m'écriai-je, « et j'y suis, on ne peut plus sensible. » « Dans l'état actuel des choses, » dit Miss Savinia, qui eut de nouveau recours à ses notes, « et une fois qu'il est établi sur quel pied nous autorisons les visites de Monsieur Copperfield, nous lui demandons de nous donner sa parole d'honneur qu'il n'aura avec notre nièce aucune communication de quelque espèce que ce soit sans que nous en soyons prévenus et qu'il ne formera par rapport à notre nièce aucun projet sans nous le soumettre préalablement. « Sans vous le soumettre, ma sœur Savinia, » interrompit Miss Clarissa. « Je le veux bien, Clarissa, » répondit Miss Savinia d'un ton résigné, « à moi personnellement et sans qu'il ait obtenu notre approbation. Nous en faisons une condition expresse et absolue qui ne devra être enfreinte sous aucun prétexte. Nous avions prié Monsieur Copperfield de se faire accompagner aujourd'hui d'une personne de confiance, et elle se tourna vers Traddles qui salua, afin qu'il ne pût y avoir ni doute ni malentendu sur ce point. Monsieur Copperfield, si vous ou Monsieur Traddles, vous avez le moindre scrupule à nous faire cette promesse, je vous prie de prendre du temps pour y réfléchir. Je m'écriai dans mon enthousiasme que je n'avais pas besoin d'y réfléchir un seul instant de plus. Je jurai solennellement, et du ton le plus passionné, j'appelais Traddles à me servir de témoin. Je me déclarais d'avance le plus atroce et le plus pervers des hommes si jamais je manquais le moins du monde à cette promesse. « Attendez, » dit Miss Savinia en levant la main. « Avant d'avoir le plaisir de vous recevoir, messieurs, nous avions résolu de vous laisser seul un quart d'heure pour vous donner le temps de réfléchir à ce sujet. Permettez-nous de nous retirer. » En vain, je répétais que je n'avais pas besoin d'y réfléchir. Elles persistèrent à se retirer pour un quart d'heure. Les deux petits oiseaux s'en allèrent en sautillant avec dignité et nous restâmes seuls. Moi, transportée dans des régions délicieuses et Traddles occupé à m'accabler de ses félicitations. Au bout du quart d'heure, ni plus ni moins, elles reparurent toujours avec la même dignité. À leur sortie, le froissement de leur robe avait fait un léger bruissement comme si elles étaient composées de feuilles d'automne. Quand elles revinrent, le même frémissement se fit encore entendre. Je promis de nouveau d'observer fidèlement la prescription. « Ma sœur Clarissa, » dit Miss Savinien, « le reste vous regarde. » Miss Clarissa cessa pour la première fois de laisser ses bras croisés, prit ses notes et les regarda. « Nous serons heureux, » dit Miss Clarissa, « de recevoir M. Copperfield à dîner tous les dimanches, si cela lui convient. Nous dînons à 3 heures. » Je saluai. « Dans le courant de la semaine, » dit Miss Clarissa, « nous serons charmés que M. Copperfield vienne prendre le thé avec nous. Nous prendrons le thé à 6h30. » Je saluai de nouveau. « 2 fois par semaine, » dit Miss Clarissa, « mais pas plus souvent. » Je saluai de nouveau. « Miss Trotwood, dont M. Copperfield fait mention dans sa lettre, » dit Miss Clarissa, « viendra peut-être nous voir. Quand les visites sont utiles, dans l'intérêt des deux parties, nous sommes charmés de recevoir des visites et de les rendre. Mais quand il vaut mieux, dans l'intérêt des deux parties, qu'on ne se fasse point de visites, comme cela nous est arrivé avec mon frère Francis et sa famille, alors c'est tout à fait différent. J'assurais que ma tante serait heureuse et fière de faire leur connaissance, et pourtant je dois dire que je n'étais pas bien certain qu'elles dussent toujours s'entendre parfaitement. Toutes les conditions étant donc arrêtées, j'exprimai mes remerciements avec chaleur, et prenant la main d'abord de Miss Clarissa, puis de Miss Savinia, je les portai successivement à mes lèvres. Miss Savinia se leva alors, et priant M. Traddles de nous attendre un instant, elle me demanda de la suivre. J'obéis en tremblant. Elle me conduisit dans une antichambre. Là, je trouvai ma bien-aimée Dora, la tête appuyée contre le mur, et Jip enfermée dans le réchaud pour les assiettes, la tête enveloppée d'une serviette. Oh, qu'elle était belle dans sa robe de deuil! Comme elle pleura d'abord, et comme j'eus de la peine à la faire sortir de son coin, et comme nous fûmes heureux tous deux quand elle finit par s'y décider. Quelle joie de tirer Jip du réchaud, de lui rendre la lumière du jour et de nous trouver tous trois réunis. Ma chère Dora, à moi maintenant pour toujours. Oh, laissez-moi, dit-elle d'un ton suppliant, je vous en prie. N'êtes-vous pas à moi pour toujours, Dora? Ah oui, certainement, cria Dora. Mais j'ai si peur. Peur, ma chérie? Oh oui, je ne l'aime pas, dit Dora. Que ne s'en va-t-il? Mais qui, mon trésor? Votre ami, dit Dora. Est-ce que ça le regarde? Il faut être bien stupide. Mon amour, jamais je n'ai rien vu de plus séduisant que ses manières enfantines. C'est le meilleur garçon. Mais qu'avons-nous besoin de bons garçons? Dit-elle avec une petite moue. Ma chérie, repris-je, vous le connaîtrez bientôt et vous l'aimerez beaucoup. Ma tante aussi va venir vous voir et je suis sûre que vous l'aimerez aussi de tout votre cœur. Oh non, ne l'amenez pas, dit Dora en m'embrassant d'un petit air épouvanté et en joignant les mains. Non, je sais bien que c'est une mauvaise petite vieille. Ne l'amenez pas ici, mon petit Dodi. C'était une corruption de David qu'elle employait par amitié. Les remontrances n'auraient servi à rien. Je me mis à rire, à la contempler avec amour, avec bonheur. Elle me montra comme Jip savait bien se tenir dans un coin sur ses jambes de derrière. Et il est vrai de dire qu'en effet, il y restait bien le temps que dure un éclair et retombait aussitôt. Enfin, je ne sais combien de temps j'aurais pu rester ainsi, sans penser le moins du monde à Traddles, si Miss Savinien n'était pas venue me chercher. Miss Savinien aimait beaucoup Dora. Elle me dit que Dora était tout son portrait du temps qu'elle était jeune. Dieu, comme elle avait dû changer! Et elle la traitait comme un joujou. Je voulus persuader à Dora de venir voir Traddles. Mais sur cette proposition, elle courut s'enfermer dans sa chambre. J'allai donc, sans elle, retrouver Traddles et nous sortîmes ensemble. Rien ne saurait être plus satisfaisant, dit Traddles. Et ces deux vieilles dames sont très aimables. Je ne serais pas du tout surpris que vous fussiez marié plusieurs années avant moi, Copperfield. Votre Sophie joue-t-elle de quelque instrument, Traddles ? Demandai-je dans l'orgueil de tout mon cœur. Elle sait assez bien jouer du piano pour l'enseigner à ses petites sœurs, dit Traddles. Est-ce qu'elle chante ? Elle chante quelquefois des ballades pour amuser les autres quand elles ne sont pas en train, dit Traddles. Mais elle n'exécute rien de bien savant. Elle ne chante pas en s'accompagnant à la guitare ? Oh, ciel, non ! Est-ce qu'elle peint ? Non, pas du tout, dit Traddles. Je promis à Traddles qu'il entendrait chanter Sophie et que je lui montrerais de ses peintures de fleurs. Il dit qu'il en serait enchanté et nous rentrâmes bras dessous, le plus gaiement du monde. Je l'encourageai à me parler de Sophie. Il le fit avec une tendre confiance en elle qui me toucha fort. Je la comparais à Dora dans mon cœur, avec une grande satisfaction d'amour-propre. Mais c'est égal. Je reconnaissais bien volontiers en moi-même que ça ferait évidemment une excellente femme pour Traddles. Naturellement, ma tante fut immédiatement instruite de l'heureux résultat de notre conférence et je la mis au courant de tous les détails. Elle était heureuse de me voir si heureux et elle me promit d'aller très prochainement voir les tantes de Dora. Mais ce soir-là, elle arpenta si longtemps le salon pendant que j'écrivais à Agnès que je commençais à croire qu'elle avait l'intention de continuer jusqu'au lendemain matin. Ma lettre à Agnès était pleine d'affection et de reconnaissance. Elle lui détaillait tous les bons effets des conseils qu'elle m'avait donnés. Elle m'écrivit par le retour du courrier. Sa lettre à elle était pleine de confiance, de raison et de bonne humeur, et à dater de ce jour, elle montra toujours la même gaieté. J'avais plus de besogne que jamais. Putney était loin de Highgate, où je me rendais tous les jours, et pourtant je voulais y aller le plus souvent possible. Comme il n'y avait pas moyen que je puisse me rendre chez Dora à l'heure du thé, j'obtins par capitulation de Miss Savinia la permission de venir tous les samedis dans l'après-midi, sans que cela fît tort au dimanche. J'avais donc deux beaux jours à la fin de chaque semaine, et les autres se passaient tout doucement dans l'attente de cela. Je fus extrêmement soulagée de voir que ma tante et les tantes de Dora s'accommodèrent les unes des autres, à tout prendre, beaucoup mieux que je ne l'avais espéré. Ma tante fit sa visite 4 ou 5 jours après la conférence, et 2 ou 3 jours après, les tantes de Dora lui rendirent sa visite, dans toutes les règles, en grande cérémonie. Ces visites se renouvelèrent, mais d'une manière plus amicale, de 3 en 3 semaines. Je sais bien que ma tante troublait toutes les idées des tantes de Dora, par son dédain pour les fiacres, dont elle n'usait guère, préférant de beaucoup venir à pied jusqu'à Putney, et qu'on trouvait qu'elle avait bien un peu d'égard pour les préjugés de la civilisation en arrivant à des heures indues, tout de suite après le déjeuner, ou un quart d'heure avant le thé, ou bien en mettant son chapeau de la façon la plus bizarre, sous prétexte que cela lui était commode. Mais les tantes de Dora s'habituèrent bientôt à regarder ma tante comme une personne excentrique et tant soit peu masculine, mais d'une grande intelligence. Et quoique ma tante exprimât parfois sur certaines convenances sociales des opinions hérétiques qui étourdissaient les tantes de Dora, cependant, elle m'aimait trop pour ne pas sacrifier à l'harmonie générale quelques-unes de ses singularités. Le seul membre de notre petit cercle qui refusa positivement de s'adapter aux circonstances, ce fut Jip. Il ne voyait jamais ma tante sans aller se fourrer sous une chaise en grinçant des dents et en grognant constamment. De temps à autre, il faisait entendre un hurlement lamentable, comme si elle lui portait sur les nerfs. On essaya de tout. On le caressa, on le gronda, on le battit, on l'amena à Buckingham Street, où il s'élança immédiatement sur les 2 chats à la grande terreur des spectateurs. Mais jamais on ne put l'amener à supporter la société de ma tante. Parfois, il semblait croire qu'il avait fini par se raisonner et vaincre son antipathie. Il faisait même l'aimable un moment, mais bientôt il retroussait son petit nez et hurlait si fort qu'il fallait bien vite le fourrer dans le réchaud aux assiettes pour qu'il ne pût rien voir. À la fin, Dora a pris le parti de l'envelopper tout près dans une serviette pour le mettre dans le réchaud dès qu'on annonçait l'arrivée de ma tante. Il y avait une chose qui m'inquiétait beaucoup, même au milieu de cette douce vie. C'était que Dora semblait passer, aux yeux de tout le monde, pour un charmant joujou. Ma tante, avec laquelle elle s'était peu à peu familiarisée, l'appelait sa petite fleur. Et Miss Savinia passait son temps à la soigner, à refaire ses boucles, à lui préparer de jolies toilettes. On la traitait comme une enfant gâtée. Ce que Miss Savinia faisait, sa sœur naturellement le faisait aussi de son côté. Cela me paraissait singulier, mais tout le monde avait jusqu'à un certain point l'air de traiter Dora à peu près comme Dora traitait Jip. Je me décidai à lui en parler, et un jour que nous étions seuls ensemble, car Miss Savinia nous avait, au bout de peu de temps, permis de sortir seule, je lui dis que je voudrais bien qu'elle pût leur persuader de la traiter autrement. « Parce que, voyez-vous, ma chérie, vous n'êtes pas un enfant. »« Allons, » dit Dora. « Est-ce que vous allez devenir gros nuon à présent ?»« Gros nuon, mon amour ?»« Je trouve qu'ils sont tous très bons pour moi, » dit Dora. « Et je suis très heureuse. »« À la bonne heure. Mais ma chère petite, vous n'en seriez pas moins heureuse quand on vous traiterait en personne raisonnable. » Dora me lança un regard de reproche. Quel charmant petit regard! Et elle se mit à sangloter en disant que, puisque je ne l'aimais pas, elle ne savait pas pourquoi j'avais tant désiré d'être son fiancé et que, puisque je ne pouvais pas la souffrir, je ferais mieux de m'en aller. Que pouvais-je faire que d'embrasser ses beaux yeux pleins de larmes et de lui répéter que je l'adorais? « Et moi qui vous aime tant !» dit Dora. « Vous ne devriez pas être si cruel pour moi, David !»« Cruel ? Mon amour, comme si je pouvais être cruel pour vous !»« Alors ne me grondez pas !» dit Dora avec cette petite moue qui faisait de sa bouche un bouton de rose. « Et je serai très sage !» Je fus ravie un instant après de l'entendre me demander d'elle-même si je voulais lui donner le livre de cuisine dont je lui avais parlé une fois et lui montrer à tenir des comptes comme je le lui avais promis. À la visite suivante, je lui apportai le volume bien relié pour qu'il eût l'air moins sec et plus engageant. Et tout en nous promenant dans les champs, je lui montrai un vieux livre de comptes à ma tante et je lui donnai un petit carnet, un joli porte-crayon et une boîte de mime de plomb pour qu'elle pût s'exercer au ménage. Mais le livre de cuisine fit mal à la tête à Dora, et les chiffres la firent pleurer. Il ne voulait pas s'additionner, disait-elle. Aussi se mit-elle à les effacer tous et à dessiner à la place sur son carnet des petits bouquets ou bien le portrait de Jip et le mien. J'essayai ensuite de lui donner verbalement quelques conseils sur les affaires du ménage dans nos promenades du samedi. Quelquefois, par exemple, quand nous passions devant la boutique d'un boucher, je lui disais « Voyons, ma petite, si nous étions mariés et que vous eussiez à acheter une épaule de mouton pour notre dîner, sauriez-vous l'acheter ?» Le joli petit visage de Dora s'allongeait et elle avançait ses lèvres comme si elle voulait fermer les miennes par un de ses baisers. « Sauriez-vous l'acheter, ma petite ?» répétais-je alors d'un air inflexible. Dora réfléchissait un moment, puis elle répondait d'un air de triomphe. « Mais le boucher saurait bien me la vendre. Est-ce que ça ne suffit pas ? Oh, Davis, que vous êtes niais !» Une autre fois, je demandai à Dora, en regardant le livre de cuisine, ce qu'elle ferait si nous étions mariés, et que je lui demandasse de me faire manger une bonne étuvée à l'irlandaise. Elle me répondit qu'elle dirait à sa cuisinière « Faites-moi une étuvée !» Puis elle battit des mains en riant si gaiement qu'elle me parut plus charmante que jamais. En conséquence, le livre de cuisine ne servit guère qu'à mettre dans le coin pour faire tenir dessus tout droit Maître Jip. Mais Dora fut tellement contente le jour où elle parvint à l'y faire rester avec le porte-crayon entre les dents que je ne regrettais pas de l'avoir acheté. Nous en revînmes à la guitare, aux bouquets de fleurs, aux chansons sur le plaisir de danser toujours, et toute la semaine se passait en réjouissance. De temps en temps, j'aurais voulu pouvoir insinuer à Miss Savinia qu'elle traitait un peu trop ma chère Dora comme un jouet. Et puis, je finissais par m'avouer quelquefois que moi aussi je cédais à l'entraînement général et que je la traitais comme un jouet aussi bien que les autres. Quelquefois, mais pas souvent.